Et tout de suite, vous avez rendez-vous avec le feuilleton. Belle soirée.
France Culture, il est 21h. L'heure d'ouvrir une fenêtre sur l'imaginaire. Une heure pour s'évader grâce au feuilleton. S'émerveiller avec l'instant poésie et plonger dans lecture du soir.
La vérité est que durant 22 années, tu m'avais haï. Tu l'avais compris ? Tu me haïssais non seulement dans l'acception courante du mot, mais avec une passion rappelant celle des liaisons intimes.
Les braises de Sándor Márai. Adaptation et réalisation, Juliette Eman. 5e et dernier épisode.
Dès que tu es parti, Christine s'est aussi retirée. Elle avait laissé le livre en anglais sur son fauteuil, et comme je n'avais nulle envie d'aller dormir, je me suis mis à le feuilleter. J'avoue avoir été étonné de constater que Christine lut un livre de ce genre. Quel intérêt pouvait-elle avoir à étudier des questions comme par exemple le développement de la production caoutchoucière ou bien l'état sanitaire des populations indigènes dans les régions tropicales? Mais j'ai compris tout d'un coup que ce livre, lui aussi, constituait un indice, un témoignage muet. Ce livre signifiait que Christine voulait partir, qu'elle rêvait de pays lointains, bref, qu'elle désirait une existence différente. Peut-être voulait-elle même fuir quelqu'un ou quelque chose. Était-ce toi ? Était-ce ? Ou l'un et l'autre ? Il est évident, pensais-je, que Christine pressent quelque chose. C'est pourquoi elle veut partir d'ici. Cette journée de chasse avait scindé ma vie en deux. D'un côté, mon enfance, toi et tout ce que signifiait la vie pour moi jusqu'alors. De l'autre côté, la période sombre et imprévisible qu'il me restait à vivre. Un gouffre profond séparait les deux parties. Qu'était-il arrivé ? Aucune réponse satisfaisante ne se présentait à mon esprit. De prime abord, il fallait rejeter l'explication la plus naturelle et la plus simple, à savoir que tu étais tout d'un coup tombé éperdument amoureux de Christine et qu'à la suite d'une sorte d'égarement, tu la convoitais. Nulle manifestation ni indice quelconque noté dans notre groupe amical n'autorisait pareille supposition. Je connaissais d'ailleurs Christine et je te connaissais comme moi-même. Tout au moins, était-ce mon impression alors?
C'est de l'orgueil. Tu n'étais que présomptueux et tu ne connaissais pas Christine. Et tu ne me connaissais pas non plus très bien. Tu ne te connaissais même pas toi-même.
Le crois-tu vraiment? Je savais ce que faisait Christine jour par jour. Son cœur et son corps n'avaient pas de secret pour moi. Quelle supposition absurde que toi et Christine... Après un examen rapide, j'ai rejeté cette idée avec un véritable soulagement. Je me suis dit qu'il avait dû se passer quelque chose d'autre, de plus profond et d'incompréhensible. Christine ne mentait pas et n'était pas infidèle. Je connaissais toutes ses pensées, même les plus secrètes, même celles que l'on n'ose formuler qu'en rêve. Son carnet jaune, ne l'as-tu pas vu ?
Et de quoi parles-tu ? De quel carnet s'agit-il ?
Comment ? Elle ne t'en aurait jamais parlé ? Dans ce carnet que je lui avais donné sur sa demande, au début de notre mariage, elle notait ses impressions. Nous étions tombés d'accord qu'elle y rendrait compte, pour moi et pour elle-même, jusqu'aux sentiments et pensées qui, tels la lie de l'âme humaine, peuvent être difficilement relatés de vive voix. Soit qu'on en ait honte, soit qu'on trouve superflu de les traduire en paroles. Le carnet était toujours rangé dans un tiroir de son secrétaire dont elle et moi étions les seuls à posséder la clé. Si Christine avait eu un secret dans sa vie, son journal m'en aurait averti. Lorsque, au salon, j'en fus arrivé là de mes réflexions, je me suis rendu dans le boudoir de Christine. J'ai ouvert le tiroir de son secrétaire pour y prendre le carnet recouvert de velours jaune. Or, le tiroir était vide. Il était minuit passé. Tout le monde dans le château dormait. Christine devait aussi être couchée, aussi n'ai-je pas voulu la déranger. Elle avait sans doute pris le carnet dans sa chambre. Comme je te l'ai dit, c'est elle qui me l'avait demandé pendant notre voyage de noces à Paris. C'est elle qui voulait faire ses confidences. Après tant d'années passées, maintenant que Christine est morte depuis longtemps, je puis te dire que je me suis enfin rendu compte que l'on ne se prépare scrupuleusement à se confesser avec une franchise absolue que si l'on pressent qu'un jour, on aura certaines choses à avouer.
Je pense que l'on peut envisager cette hypothèse.
Christine voulait m'appartenir corps et âme, me donner absolument tout. Ses pensées, ses sensations et ses sentiments les plus intimes. Tâche de comprendre. Nous étions en voyage de noces. Imagine ce que devait infailliblement représenter pour elle mon nom, mon château, mon hôtel à Paris, un voyage à travers le monde, tout ce qu'elle n'aurait osé désirer même en rêve, et qu'elle a obtenu grâce à moi. N'était-il pas naturel que Christine crût qu'elle était amoureuse ? J'ai su plus tard que, même durant ces premiers mois de notre union, elle n'était pas amoureuse. Elle était simplement reconnaissante. Les premiers temps, tout allait bien. Christine notait brièvement ses impressions dans son journal. Puis, la journée la plus mémorable de ma vie est arrivée. Cette journée de chasse pendant laquelle j'ai cru entendre la détonation de ton fusil et le sifflement de la balle près de mon oreille. La nuit est descendue sur nous et tu nous as quittés. Mais non sans avoir examiné auparavant, en compagnie de Christine, tous les problèmes relatifs aux tropiques. Bref, ce soir-là, je restais seul à me rappeler la journée et la soirée passées ensemble, et je ne trouvais pas le journal de Christine à sa place habituelle. C'est alors que je décidai d'aller le lendemain chez toi pour t'interroger.
Tu aurais dû m'interroger immédiatement, le soir même. Le lendemain, c'était évidemment trop tard.
Je disais donc que j'avais décidé d'aller te parler, ne me rendant pas encore compte que mes questions et tes réponses ne changeaient rien au fait. Épuisé, j'ai dormi toute la nuit, comme si j'avais fourni la veille un gros effort physique, telle une course à cheval de plusieurs heures. Donc, aussitôt réveillé, j'ai fait atteler et je me suis fait conduire chez toi. Ce n'est qu'une fois arrivé dans ta chambre que j'ai appris que tu étais déjà parti. La lettre par laquelle tu présentais ta démission de l'armée et annonçais ton intention de t'installer à l'étranger est arrivée au régiment le lendemain. Alors seulement, je me suis rendu à l'évidence de ta fuite. Par là, il s'avérait aussi que tu avais voulu m'assassiner. En outre, il devint également clair qu'il s'était passé quelque chose dont je ne comprenais pas encore le sens. Et il était indéniable que tout cela me concernait personnellement et de façon néfaste. Je me trouvais donc chez toi, dans cette pièce quelque peu mystérieuse, rempli d'objets superbes, lorsque la porte s'est ouverte et que Christine est entrée. Elle est entrée et s'est arrêtée près de la porte. Elle arrivait de chez nous. Est-il parti ? A-t-elle demandé d'une voix étrangement voilée. Je lui ai indiqué d'un geste que tu étais réellement parti. Fine et élancée, Christine se tenait près de la porte. Jamais je ne l'avais vue aussi belle qu'à cet instant. Son visage était pâle comme celui d'un blessé qui a perdu beaucoup de sang. Ses yeux brillaient d'un éclat fiévreux comme la veille au soir quand je m'étais approché d'elle alors qu'elle lisait ce livre sur les tropiques. Il s'est donc enfui, a-t-elle constaté alors d'un ton sans réplique. Elle a prononcé ces paroles comme pour elle-même. C'était un lâche, a-t-elle ajouté à voix basse, mais avec fermeté.
Elle a vraiment dit cela ?
Oui. Ce furent exactement ses paroles et pas un mot de plus. Naturellement, je ne lui ai pas posé de questions. Et nous sommes restés ainsi dans ta chambre sans rien dire. Christine a jeté un regard autour d'elle et a examiné l'un après l'autre les meubles, les tableaux et les objets d'art. Tu n'ignores pas qu'il y a deux façons de regarder les choses. Soit avec des yeux qui découvrent ce qu'ils aperçoivent, soit avec des yeux qui prennent congé. Christine regardait autour d'elle sans aucune surprise, avec une telle simplicité et un tel naturel que l'on eût dit qu'elle se trouvait dans son propre foyer où elle connaissait l'emplacement de chaque chose. En même temps, ses yeux cernés lançaient des éclairs. Elle paraissait vouloir se dominer, mais je sentais qu'elle était sur le point de te perdre et de me perdre. Elle a jeté un regard hautain au large divan, et la fraction d'une seconde, elle a fermé les yeux. Puis elle a fait demi-tour et a quitté la pièce comme il y était entré, sans rien me dire. Est-ce que je ne te fatigue pas ?
Non. Continue, je t'en prie.
J'aurai bientôt terminé.
Au-dessus d'eux, les bougies brûlent en minces flammes vacillantes et les mèches noircies fument. Dehors, nulle lueur, si petite fut-elle, ne perce la nuit. La ville, au loin, est plongée dans l'obscurité.
C'est toi qui m'as présenté à Christine, que tu connaissais depuis son enfance. Elle avait à cette époque...
17 ans.
Oui, elle avait 17 ans. C'est toi qui m'as présenté à elle. Mais tu t'es bien gardé de m'avouer qu'elle te plaisait à toi aussi. Pour ma destinée, le fait d'avoir rencontré Christine était indiscutablement plus décisif que n'importe quel autre événement de ma vie. On aurait dit que la nature s'était plu à créer, pour une fois, un être indépendant et libre, qui n'aurait eu véritablement rien de commun avec un groupe humain quelconque. Elle ne voulait abandonner à la société dans laquelle je l'avais introduite la moindre parcelle de sa liberté et de son indépendance de caractère, qui constituait sa véritable personnalité. De ma vie, je n'ai rencontré une autre personne possédant une compréhension aussi parfaite que celle de Christine pour toutes les manifestations de la vie. Comprends-tu cela ?
Pourquoi me poses-tu cette question à moi ?
À qui d'autre pourrais-je la poser ? Nous sommes les seuls, toi et moi, à l'avoir connue. Je suis l'homme qui l'a aimée et toi l'homme qu'elle a aimé. Mais il est en effet inutile de te questionner. Tu as certainement très bien compris tout cela. Il faut que tu saches que la veille de ton départ, ce fut le dernier repas que nous avons pris ensemble avec Christine. Non pas seulement en ta compagnie, mais aussi elle et moi. Car ce soir-là, entre nous trois, tout a été fini comme cela devait arriver. Christine étant telle que nous la connaissions, il était à prévoir que certaines décisions seraient prises. En effet, toi, tu es parti sous les tropiques. Quant à Christine et à moi, nous n'avons plus jamais échangé une parole, même si elle a vécu encore 8 années.
Vous deux, vous n'avez plus échangé une parole.
C'est ainsi que le voulait notre nature. Quand je suis rentré au château, je suis monté dans ma chambre et j'y ai attendu Christine. Peut-être l'ai-je attendu pour la tuer ou... simplement pour apprendre d'elle la vérité et lui pardonner. En tout cas, je l'ai attendue jusqu'au soir. Comme elle ne s'est pas présentée, je me suis installé dans le pavillon de chasse. Et durant 8 années, je ne l'ai pas revue.
Ce que tu as fait était inhumain. Inhumain, entends-tu ? Et moi qui n'ai rien su de tout cela.
Tu trouves que ma façon d'agir était inhumaine ? En réalité, elle était simplement humaine. Désespérément humaine. Si Christine m'avait fait parvenir un message quelconque, j'aurais fait ce qu'elle voulait. mais elle ne voulait absolument rien. C'était une femme qui avait de la personnalité. Et elle a dû souffrir, elle aussi, des outrages de ceux qu'elle aimait.
Qui l'a offensée ?
Un l'a offensée en fuyant son amour parce qu'il n'était pas disposé à se laisser anéantir par une liaison qui se révélait fatale. Et l'autre, bien qu'il connût la vérité, en se confinant dans l'attente et dans le mutisme. Durant 8 années, elle ne m'a pas fait demander. Mais pendant que je t'attendais pour élucider tout cela, j'ai appris par Nini que, sur son lit de mort, Christine m'a appelé. C'est moi qu'elle voulait revoir et non pas toi. Je te le dis non pour triompher de toi, mais pas non plus sans une certaine satisfaction. Les dernières paroles de Christine ont été pour moi, et cela compte tout de même un peu.
L'as-tu vue ? J'entends sur son lit de mort. Et tu allais la voir ?
Oui. Elle n'avait pas cessé d'être belle. La solitude n'avait pas enlaidi ses traits, ni la maladie défait l'harmonie grave et distinguée qui faisait la beauté particulière de ce visage. Mais cela n'est pas ton affaire.
Comment ? Alors pourquoi en parles-tu ? Pourquoi n'aurais-je pas le droit de savoir qu'elle était belle même sur son lit de mort ?
Toi, tu continuais à vivre au loin tandis que Christine se mourait ici.
Et toi ? Tu vivais en homme offensé à proximité d'elle, sans plus jamais lui adresser la parole, et elle en est morte.
Elle nous a répondu à tous deux comme elle le pouvait.
Mais les questions qu'on laisse derrière soi restent posées.
Imposture, adultère et trahison ne sont plus que des mots vides de sens lorsque la personne à laquelle ils se rapportent a répondu définitivement par sa mort. Ce qui a infiniment plus d'importance, c'est que Christine est morte tandis que nous avons continué à vivre. J'ai vécu parce que j'ai dû attendre ton retour. Et Christine est morte parce qu'elle n'a pas voulu attendre davantage ton retour. Elle est morte paisiblement et je suis resté seul à préparer ma vengeance. Or, à présent, la vengeance est là, comme je l'avais constamment désirée. Elle consiste en ceci. Après ton retour auprès de moi, à travers un monde en flammes, par des mers semées de mines, tu te trouves enfin sur les lieux de tes actes pour me rendre raison et pour que nous connaissions la vérité. Maintenant, tu auras à répondre.
D'accord. Peut-être as-tu raison. Interroge et je te répondrai, si je le puis.
La lumière des chandelles décroît. La brise du matin se lève parmi les arbres du jardin. Dans le salon, autour des deux amis, il fait encore nuit.
Je te poserai seulement 2 questions auxquelles tu es le seul à pouvoir répondre. Tu penses, sans doute, que je voudrais savoir si le matin de cette chasse, je ne me suis pas trompé en supposant que tu avais eu l'intention de me tuer. Tu crois qu'en second lieu, je te demanderai si tu as été l'amant de Christine, ou si, comme on dit communément, Christine m'a trompé avec toi. Et à quoi servirait tout cela ? Ce qui, naguère, comptait pour certains, n'aura en définitive pas plus d'importance que la poussière et la cendre.
Alors, que veux-tu au juste ?
Je veux la vérité.
Tu connaissais toute la vérité ?
Oui, je savais tout. À l'exception d'une chose, pourtant. C'est pourquoi il m'a fallu vivre et continuer à attendre. Il faut que tu répondes à ma question. Christine, le jour de la chasse, savait-elle que tu voulais m'assassiner ? En dehors de toi, il n'y a personne qui puisse m'aider. Cette réponse acceptée, plus rien n'a d'intérêt pour moi. Mais je crois que je ne t'ai pas dit tout ce qu'il faut que tu saches. Tu ne dois pas ignorer notamment que Christine a déjà répondu.
Que racontes-tu là ?
Oui. Elle a répondu, et pas seulement avec sa mort. Un jour, bien des années après sa disparition, j'ai retrouvé son journal, relié en velours jaune, que j'avais cherché en vain dans son secrétaire la nuit mémorable qui a suivi la chasse. Ce journal, le voici. Voilà ce que Christine nous a légué. Je n'ai pas enlevé le ruban cacheté car je n'avais pas autorisation écrite pour le faire. Christine n'ayant pas donné d'instructions concernant son héritage, je ne pouvais savoir si ses confessions d'outre-tombe étaient destinées à moi ou à toi. Ce journal contient la vérité, c'est-à-dire la réponse exacte à ma question, car Christine ne mentait jamais. Ce message de Christine, veux-tu que nous le lisions ensemble ?
Non. Je ne le désire pas.
Ne le désires-tu pas ou ne l'oses-tu pas ?
Je ne répondrai pas à cette question.
C'est bien ce que je pensais.
Le général avance le bras et lance le carnet dans le feu. Les bûches s'enflamment et le feu consume sa proie. Les deux vieillards observent les flammèches qui jettent une vive lueur et enveloppent le carnet, qui brûle en dégageant une âcre fumée. Le papier se décompose et tout le carnet se trouve consumé. Au milieu du brasier, il ne reste plus qu'un amas de cendres, luisant comme un morceau de moire foncé.
À présent, tu peux répondre à ma question. Désormais, il n'y a plus de témoins pour te contredire. Me diras-tu enfin si Christine savait que tu as voulu me tuer dans la forêt, à l'aube ?
Maintenant, je ne répondrai pas non plus à cette question.
Depuis un certain temps, la température a baissé dans la pièce. Ce n'est pas encore le point du jour, mais par la fenêtre à moitié ouverte, l'air frais de la campagne arrive jusqu'à eux. À cette heure avancée de la nuit, à la faible lueur des chandelles, les deux amis paraissent encore plus vieux. Leur teint jauni et leur visage anguleux font penser à des figures d'anatomie. Conrad lève le bras et regarde l'heure à sa montre bracelet.
Je pense que nous sommes tout dits. Il va être temps que je parte.
La voiture est à ta disposition si tu désires te retirer.
Ils se lèvent et s'approchent tous deux de la cheminée. Le dos voûté, ils étendent leurs mains au-dessus du feu presque éteint. Ils se sentent subitement transis et frissonnent de froid.
Tu vas retourner à Londres ?
Mais oui.
Penses-tu y rester désormais ?
Certainement et jusqu'à ma mort.
Les deux amis se dirigent alors vers la porte et, le général ayant posé la main sur la clenche, tous deux s'arrêtent. Comme après une soirée mondaine, ils se trouvent l'un en face de l'autre, prêts à prendre congé.
Regarde. Les chandelles se sont entièrement consumées.
Ne m'as-tu pas annoncé deux questions ? Quelle est donc ta seconde question ?
La seconde question. Mais tu n'as même pas répondu à la première.
Je désire connaître néanmoins la seconde question.
Nous deux, nous avons survécu à Christine. À ton avis, avions-nous un motif valable pour cela ?
Que veux-tu dire ? Le fait est que nous lui avons survécu et c'est tout.
Ne penses-tu pas qu'en définitive, nous lui devions une justification posthume ? En somme, elle valait davantage et elle était plus humaine que nous deux. Elle nous était supérieure parce qu'en mourant, Elle a donné une réponse, tandis que nous sommes restés en vie. Voici les faits, et les faits de ce genre sont indiscutables.
Pourquoi parler de justification ? Pose-moi plutôt ta seconde question.
Celui qui survit commet toujours une sorte de trahison. J'entends lorsqu'on survit à des êtres auxquels on était intimement liés. Christine est morte parce que nous, les deux hommes auxquels elle appartenait, étions ordinaires, altiers, orgueilleux, de caractère indépendant et en même temps lâches à un point qu'elle n'a pu supporter. Nous avons pris la fuite devant elle, chacun à sa façon. Nous l'avons trahi en lui survivant ignoblement et en vainqueur. Voilà la vérité. Tu ne devras pas oublier cela à Londres, à ta dernière heure.
Je ne l'oublierai pas.
À quoi cela nous a-t-il servi de lui survivre d'une façon aussi ignoble et superbe ?
À rien.
Ma deuxième question, la voici. Qu'avons-nous gagné avec notre intelligence, notre orgueil et notre présomption ? Le vrai sens de notre vie ne résidait-il pas dans la nostalgie inquiète d'une femme qui est morte ?
Voilà une question bien compliquée.
Les deux amis se regardent les yeux dans les yeux un bon moment. Le général se sent oppressé et finit par ouvrir la porte. Tous deux s'inclinent profondément et se serrent la main sans rien dire. Le général se dirige vers sa chambre à coucher. Au bout du corridor, Nini l'attend.
Es-tu plus tranquille maintenant ?
Oui. À présent, tu pourras remettre le portrait à sa place.
Bien.
Ça n'a plus d'importance.
Tu as raison.
Bonne nuit, Nini.
Mais il fait déjà jour. Bonne nuit.
Elle se hausse sur la pointe des pieds et de sa main minuscule, dont les os sont recouverts d'une peau jaune et ridée, elle trace un signe de croix sur le front du général. Puis, brusquement, elle lui donne un petit baiser sur la joue.
Les braises de Sándor Márai. Traduction Marcel et Georges Régnier. Adaptation Juliette Eman. Cinquième et dernier épisode. Avec Pascal Rénéric, Alain Rimoux, Claude Bernard Perrault et Dominique Jaïr. Musique originale et interprétation Floriane Bonani. Bruitage Elodie Fiat. Conseillère littéraire Emmanuelle Chevrière. Prise de son, montage et mixage Claire Levasseur, Kevin Delcourt. Assistante à la réalisation Claire Chéneau. Réalisation Juliette Eman. Les braises de Sándor Márai est publié aux éditions Albin Michel.
Vous êtes bien sur France Culture.
Dans cette nouvelle série des Pieds sur Terre, Adila Benedjaizou donne la parole à des autrices et des auteurs de journaux intimes. Un journal où l'on traverse le temps avec celle ou celui qui écrit. Entre portraits, confessions et parfois récits historiques.
Je cherchais quelqu'un qui me comprenne en fait, qui puisse me comprendre. C'était comme des bouteilles à la mer un petit peu.
Les Pieds sur Terre, le journal de ma vie. Une collection à découvrir sur franceculture.fr et l'appli Radio France.
Le rap, c'est pas le monde des bisounours, tu vois, c'est un sport en vrai, le rap, faut s'entraîner.
J'ai toujours cru que rapper, c'était un exercice facile.
Tout le monde peut faire du rap.
Mais là où ça devient plus compliqué, c'est quand t'es animé d'une ambition, d'un horizon, celui d'être un rappeur d'exception.
C'est charmant.
Et j'en suis là. Mon blaze, c'est Bugs Benny. Dans cette aventure, je suis pas seul. Avec Alain G et Baz Le Sel, on a fait une maquette et on l'a présentée à des artistes.
La méthode rap, volume 1 en podcast. Un docufiction de l'expérience à écouter sur franceculture.fr et l'appli Radio France. Vous écoutez France Culture, place à l'instant poésie. L'auteur et compositeur Arthur Teboul partage avec vous son amour pour la poésie.
Alors j'ai choisi de vous lire Énigme, à une lettre près et dans le désordre, qui extrait de mon recueil le déversoir, parce que c'est un poème d'amour en prose, assez pudique. Et comme tout poème d'amour pudique, eh ben on le dit à tout le monde. Elle aime s'arrêter devant la mer, prendre un bain de soleil. Fermer les yeux, droite comme un i, visage tendu au soleil. C'est une plante, venue d'un monde archaïque et noble. C'est un donjon qui tourne autour de sa propre conscience avec un pied dans le monde du rêve. Elle y puise l'eau d'une source de clairvoyance. C'est pour cela qu'elle aime tant dormir. Son sourire, on dirait le soleil, devant qui elle se tient comme un i, là, maintenant. Je la regarde prendre l'air, prendre le bain de lumière, très concentrée sur la caresse de l'astre à son visage réchauffé. Voilà, c'est bon. Elle a fini. Je vous l'ai dit, c'est une plante. Quand elle arrive à ma hauteur, je constate qu'elle a encore grandi. L'eau de la source où elle plonge la nuit est envoûtée. Je n'ose pas lui demander de l'y accompagner. Au matin, ce que je vois dans ses yeux de ce qu'elle a vu dans l'eau est si troublant que je ne lui demande rien. Elle sait quelque chose de plus. C'est tout. Alors, au moment de s'endormir, je lui dis simplement « Fais de beaux rêves. » Je me souviens bien du moment où j'ai écrit ce texte. On était fin décembre, il y a quelques années. J'étais à Cadaqués, voilà, à mon bureau. À ma droite, une fenêtre ensoleillée. Parce qu'à Cadaqués, il fait très beau l'été, l'hiver. Il fait très beau l'hiver. Et c'est un poème d'amour, parce que énigme à une lettre près et dans le désordre, et ben c'est une énigme, une lettre près et dans le désordre, qui peut-être, si on la remet dans le bon ordre à une lettre près, est un nom, un prénom, et quelqu'un. C'est une plante, venue d'un monde archaïque et noble. C'est un donjon qui tourne autour de sa propre conscience, avec un pied dans le monde du rêve. Alors, je n'ai pas écrit ce poème en observant ce que j'écris. Je l'ai écrit quelques heures après avoir vu cette plante grandir au soleil. Mais je me souviens bien du contexte. Et c'est vrai que... Je veux dire, je pense que ça n'a pas d'intérêt en soi de parler du moment où je l'ai écrit. Mais en revanche, le fait que je m'en souvienne si bien prouve que cette manière d'écrire, elle permet cet accès à la présence. Et je crois que c'est ce qui m'intéresse... tant dans le fait d'écrire, mais aussi dans le fait de lire, c'est d'essayer d'accéder à la présence, à soi, aux autres et au monde. On est tellement tout le temps détourné de cette présence, du présent, de ce ici et maintenant, parce qu'il nous attend dans nos poches, parce qu'il nous traverse l'esprit, par cet endroit qu'on essaye d'atteindre, ou vers lequel on court. Comment être présent, vraiment là? C'est tellement dur. Et je crois que c'est ce que j'ai trouvé dans la poésie, à la fois à la lire et à l'écrire. Quelque chose qui renforce et qui répond à ce désir d'être là. Ce qui est paradoxal, parce qu'en fait, quand on écrit, on ne vit pas. C'est un moment où on s'extrait de la vie. Il n'y a que quelques auteurs qui sont des auteurs. Ils écrivent comme ils vivent. Ils ont des vies d'aventuriers, ils l'écrivent en même temps. Je ne sais pas comment ils font. Ou si c'est vrai. Ou si c'est vrai. Parce qu'écrire, c'est quand même commenter cette vie. C'est un peu étrange d'avoir le besoin de commenter cette vie. Elle devrait nous suffire. Elle se suffit elle-même. Mais elle devrait nous suffire. Pourquoi on pense qu'il y a un mystère à percer, un voile à faire trembler, quelque chose à dévoiler du monde? Je sais pas pourquoi on est piqué à ça, mais moi j'ai ce virus, quoi. Et puis il s'entretient avec les poètes. Parce que quand on les lit, on se dit, bah oui, il y a quelque chose de plus dans ce monde. Il y a un sous-texte, il y a une énigme, il y a quelque chose à attraper, à capturer. Il y a une quintessence qui nous attend quelque part. et que peut-être les mots des autres, peut-être les nôtres, peuvent nous permettre de saisir. On a besoin de raconter ce monde et ce qu'on vit.
C'était l'instant poésie de Arthur Teboul, réalisation Juliette Eman, à retrouver sur l'application Radio France, franceculture.fr et sur l'Instagram de France Culture avec une illustration originale.
Vous écoutez France Culture, dernière partie de votre rendez-vous avec la fiction. Du lundi au vendredi, 20 minutes dédiées à la lecture sous toutes ses formes. Pages arrachées, lecture simple ou musicale. Vous y entendrez des textes variés, portés par des grandes voix de comédiens et d'écrivains. Les lectures du soir alterneront entre archives et création de nouvelles formes. Tout de suite, lecture du soir.
Mythologie de Roland Barthes.
Quand j'entends parler de la semaine de la bonté, je trouve que c'est le plus triste aveu de la méchanceté humaine.
Et c'est toi
qui consent à faire grève,
oui,
qui consent à faire grève seulement un 52e de chaque année. Mais vous,
la littérature selon Minot Drouet. L'affaire Minot Drouet s'est présentée pendant longtemps comme une énigme policière. Est-ce elle ou n'est-ce pas elle? On a appliqué à ce mystère les techniques habituelles de la police, moins la torture et encore. L'enquête, la séquestration, la graphologie, la psychotechnique et l'analyse interne des documents. Si la société a mobilisé un appareil quasi-judiciaire pour tenter de résoudre une énigme poétique, on se doute que ce n'est pas par simple goût de la poésie. C'est parce que l'image d'une enfant poète lui est à la fois surprenante et nécessaire. C'est une image qu'il faut authentifier d'une façon aussi scientifique que possible, dans la mesure où elle régit le mythe central de l'art bourgeois, celui de l'irresponsabilité, dont le génie, l'enfant et le poète ne sont que des figures sublimées. En attendant la découverte de documents objectifs, tous ceux qui ont pris part à la contestation policière, et ils sont fort nombreux, n'ont pu s'appuyer que sur une certaine idée normative de l'enfance et de la poésie, celle qu'ils ont en eux-mêmes. Les raisonnements tenus sur le cas Minot Drouet sont par nature tautologiques, ils n'ont aucune valeur démonstrative. Je ne puis prouver que les vers qui me sont soumis sont bien ceux d'un enfant si je ne sais d'abord ce qu'est l'enfance et ce qu'est la poésie, ce qui revient à fermer le procès sur lui-même. C'est là un nouvel exemple de cette science policière illusoire qui s'est exercée avec rage sur le cas du vieux Dominici. Tout entière fondée sur une certaine tyrannie de la vraisemblance, elle édifie une vérité circulaire qui laisse soigneusement au dehors la réalité de l'accusé ou du problème. Toute enquête policière de ce genre consiste à rejoindre les postulats que l'on a de soi-même posés au départ. Être coupable pour le vieux Dominici, c'était coïncider avec la psychologie que le procureur général porte en lui. C'était assumer, à la façon d'un transfert magique, le coupable qui est au fond des magistrats. C'était se constituer en objet émissaire, la vraisemblance n'étant jamais qu'une disposition de l'accusé à ressembler à ses juges. De même s'interroger, furieusement, comme on l'a fait dans la presse, sur l'authenticité de la poésie drouettiste, c'est partir d'un préjugé de l'enfance et de la poésie. Et quoi qu'on trouve en route, y revenir fatalement. C'est postuler une normalité à la fois poétique et enfantine, en vertu de laquelle on jugera Minot Drouet. C'est, quoi que l'on décide, enjoindre à Minot Drouet de se charger, à la fois comme prodige et comme victime, comme mystère et comme produit, c'est-à-dire en définitive comme pur objet magique, de tout le mythe poétique et de tout le mythe enfantin de notre temps. C'est bien d'ailleurs la combinaison variable de ces deux mythes qui produit la différence des réactions et des jugements. Trois âges mythologiques sont ici représentés. Quelques classiques attardés, hostiles par tradition à la poésie désordre, condamnent Minot Drouet de toute façon. Si sa poésie est authentique, c'est la poésie d'une enfant, elle est donc suspecte, n'étant pas raisonnable. Et si c'est la poésie d'un adulte, il la condamne parce qu'alors elle est fausse. Plus proche de notre temps, tout fier d'accéder à la poésie irrationnelle, un groupe de néophytes vénérables s'émerveille de découvrir, en 1955, le pouvoir poétique de l'enfance, cri au miracle pour un fait littéraire banal connu depuis longtemps. D'autres enfin, les anciens militants de la poésie enfance, ceux qui ont été à la pointe du mythe lorsqu'il était d'avant-garde, portent sur la poésie de Minou Drouet un regard sceptique, lassé par le lourd souvenir d'une campagne héroïque, d'une science que rien ne peut plus intimider. Cocteau dit « Tous les enfants de 9 ans ont du génie, sauf Minou Drouet ». Le quatrième âge, celui des poètes d'aujourd'hui, semble n'avoir pas été consulté. Peu connus du grand public, on a pensé que leur jugement n'aurait aucune valeur démonstrative, dans la mesure même où ils ne représentent aucun mythe. Je doute d'ailleurs qu'ils reconnaissent quoi que ce soit d'eux-mêmes dans la poésie de Minou Drouet. Mais que l'on déclare la poésie de Minou innocente ou adulte, c'est-à-dire qu'on la loue ou qu'on la suspecte, c'est de toute manière la reconnaître fondée sur une altérité profonde posée par la nature elle-même entre l'âge enfant et l'âge mûr. C'est postuler l'enfant comme un être asocial, ou tout au moins capable d'opérer spontanément sur lui-même sa propre critique et de s'interdire l'usage des mots entendus à seule fin de se manifester pleinement comme enfant idéal. Croire au génie poétique de l'enfance, c'est croire à une sorte de parthénogénèse littéraire, c'est poser une fois de plus la littérature comme un don des dieux. Toute trace de culture est ici portée au compte du mensonge, comme si l'usage des vocabulaires était strictement réglementé par la nature, comme si l'enfant ne vivait pas en osmose constante avec le milieu adulte. Et la métaphore, l'image, les concetti sont mis au crédit de l'enfance comme signe de la pure spontanéité, alors que consciemment ou non, ils sont le siège d'une forte élaboration, supposent une profondeur où la maturité individuelle a une part décisive. Quels que soient les résultats de l'enquête, l'énigme est donc de peu d'intérêt. Elle n'éclaire ni sur l'enfance, ni sur la poésie. Ce qui achève de rendre ce mystère indifférent, c'est que, enfantine ou adulte, cette poésie a une réalité parfaitement historique. On peut la dater. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle a un peu plus de 8 ans, qui est l'âge de Minou Drouet. Il y a eu en effet, alentour 1914, un certain nombre de poètes mineurs que les histoires de notre littérature, fort embarrassées de classer le néant, groupent généralement sous le nom pudique d'isolés et attardés fantaisistes et intimistes, etc. C'est incontestablement là qu'il faut placer la jeune Drouet ou sa muse, aux côtés de poètes aussi prestigieux que Madame Burnat Provin, Roger Allard ou Tristan Klingsor. La poésie de Minou Drouet est de cette force-là. C'est une poésie sage, sucrée, toute fondée sur la croyance que la poésie c'est une affaire de métaphore et dont le contenu n'est rien de plus qu'une sorte de sentiment élégiaque bourgeois. Que cette préciosité popote puisse passer pour de la poésie et qu'on avance même à ce sujet le nom de Rimbaud, l'inévitable enfant poète, cela relève du mythe pur. Mythe fort clair d'ailleurs, car la fonction de ces poètes est évidente. Ils fournissent au public les signes de la poésie, non la poésie elle-même. Ils sont économiques et rassurants. Une femme a bien exprimé cette fonction superficiellement émancipée et profondément prudente de la sensibilité intimiste. Madame de Noailles, qui, coïncidence, a préfacé en son temps les poèmes d'une autre enfant géniale, Sabine Sicot, morte à 14 ans. Authentique ou non, cette poésie est donc datée, et lourdement. Mais prise en charge aujourd'hui par une campagne de presse et la caution de quelques personnalités, elle nous donne précisément à lire ce que la société croit être l'enfance et la poésie. Cités, vantés ou combattus, les textes de la famille Drouet sont de précieux matériaux mythologiques. Il y a d'abord le mythe du génie, dont on ne peut décidément jamais venir à bout. Les classiques avaient décrété que c'était une affaire de patience. Aujourd'hui, le génie, c'est de gagner du temps. C'est de faire à 8 ans ce que l'on fait normalement à 25 ans. Simple question de quantité temporelle. Il s'agit d'aller un peu plus vite que tout le monde. L'enfance deviendra donc le lieu privilégié du génie. À l'époque de Pascal, on considérait l'enfance comme un temps perdu. Le problème était d'en sortir au plus vite. Depuis les temps romantiques, c'est-à-dire depuis le triomphe bourgeois, il s'agit d'y rester le plus longtemps possible. Tout acte adulte imputable à l'enfance, même attardé, participe de son intemporalité. Apparaît prestigieux parce que produit en avance. La majoration déplacée de cet âge suppose qu'on le considère comme un âge privé, clos sur lui-même, détenteur d'un statut spécial, comme une essence ineffable et intransmissible. Mais au moment même où l'enfance est définie comme un miracle, on proteste que ce miracle n'est rien d'autre qu'une accession prématurée au pouvoir de l'adulte. La spécialité de l'enfance reste donc ambiguë, frappée de cette même ambiguïté qui affecte tous les objets de l'univers classique. Comme les petits pois de la comparaison sartrienne, l'enfance et la maturité sont des âges différents, clos, incommunicables et pourtant identiques. Le miracle de Minou Drouet, c'est de produire une poésie adulte quoique enfant. C'est d'avoir fait descendre dans l'essence enfantine l'essence poétique. L'étonnement ne vient pas ici d'une destruction véritable des essences, ce qui serait fort sain, mais simplement de leur mélange hâtif. C'est ce dont rend bien compte la notion toute bourgeoise d'enfant prodige, Mozart, Rimbaud, Roberto Benzi. Objet admirable dans la mesure où il accomplit la fonction idéale de toute activité capitaliste. Gagner du temps, réduire la durée humaine à un problème numératif d'instants précieux. Sans doute, cette essence enfantine a-t-elle des formes différentes selon l'âge de ses usagers. Pour les modernistes, l'enfance reçoit sa dignité de son irrationalité même. À l'express, on n'ignore pas la psychopédagogie, d'où la confusion bouffonne avec le surréalisme. Mais pour M. Henriot, qui refuse de glorifier toute source de désordre, l'enfance ne doit rien produire d'autre que de charmant et de distingué. L'enfant ne peut être ni trivial ni vulgaire. Ce qui est encore imaginé une sorte de nature enfantine idéale, venue du ciel en dehors de tout déterminisme social, ce qui est aussi laisser à la porte de l'enfance une bonne quantité d'enfants, et ne reconnaître pour tels que les rejetons gracieux de la bourgeoisie. L'âge où l'homme précisément se fait, c'est-à-dire s'imprègne vivement de société et d'artifice, c'est paradoxalement pour M. Henriot l'âge du naturel. Et l'âge où un gosse peut très bien en tuer un autre, fait divers contemporain de l'affaire Minou Drouet, c'est toujours pour M. Henriot l'âge où l'on ne saurait être lucide et gouailleur, mais seulement sincère, charmant et distingué. Là où nos commentateurs se retrouvent d'accord, c'est sur un certain caractère suffisant de la poésie. Pour eux tous, la poésie est suite ininterrompue de trouvailles, qui est le nom ingénu de la métaphore. Plus le poème est bourré de formules, plus il passe pour réussi. Il n'y a pourtant que les mauvais poètes qui font de bonnes images, ou qui du moins ne font que cela. Ils conçoivent naïvement le langage poétique comme une addition de bonne fortune verbale, persuadés sans doute que la poésie étant véhicule d'irréalité, il faut à tout prix traduire l'objet, passer du Larousse à la métaphore, comme s'il suffisait de mal nommer les choses pour les poétiser. Le résultat est que cette poésie purement métaphorique est tout entière construite sur une sorte de dictionnaire poétique, dont Molière a donné quelques feuillets pour son temps, et dans lequel le poète puise son poème comme s'il avait à traduire de la prose en vers. La poésie des Drouet est, avec beaucoup d'application, cette métaphore ininterrompue, où ses élateurs et ses élatrices reconnaissent avec délice le visage clair, impératif de la poésie, de leur poésie. Il n'y a rien de plus rassurant qu'un dictionnaire. Cette surcharge de trouvailles produit elle-même une addition d'admiration. L'adhésion au poème n'est plus un acte total, déterminé avec lenteur et patience à travers toute une série de temps morts. C'est une accumulation d'extase, de bravo, de salut adressé à l'acrobatie verbale réussie. Ici encore, c'est la quantité qui fonde la valeur. Les textes de Minou Drouet apparaissent en ce sens comme l'antiphrase de toute poésie, dans la mesure où il fuit cette arme solitaire des écrivains, la littéralité. C'est elle seule pourtant qui peut ôter à la métaphore poétique son artifice, la révéler comme la fulguration d'une vérité, conquise sur une nausée continue du langage. Pour ne parler que de la poésie moderne, car je doute qu'il y ait une essence de la poésie en dehors de son histoire, celle bien entendu d'Apollinaire et non celle de Madame Burnat-Provins, il est certain que sa beauté, sa vérité, viennent d'une dialectique profonde entre la vie et la mort du langage, entre l'épaisseur du mot et l'ennui de la syntaxe. Or, celle de Minou Drouet bavarde sans cesse, comme ces êtres qui ont peur du silence. Elle redoute visiblement la lettre et vit d'une accumulation d'expédients. Elle confond la vie et la nervosité. Et c'est cela qui rassure dans cette poésie. Bien qu'on essaie de la charger d'étrange, bien qu'on feigne de la recevoir avec étonnement et dans une contagion d'images dithyrambiques, son bavardage même, son débit de trouvailles, cet ordre calculateur d'une profusion pas chère, tout cela font d'une poésie clinquante et économique. Ici encore règne le simili, l'une des découvertes les plus précieuses du monde bourgeois, puisqu'elle fait gagner de l'argent sans diminuer l'apparence de la marchandise. C'est pas par hasard que l'Express a pris en charge Minou Drouet. C'est la poésie idéale d'un univers où le paraître est soigneusement chiffré. Minou, elle aussi, essuie les plâtres pour les autres. Il n'en coûte qu'une petite fille pour accéder au luxe de la poésie. Cette poésie-là a naturellement son roman, qui sera dans son genre un langage tout aussi net et pratique, décoratif et usuel, dont la fonction sera affichée pour un prix raisonnable, un roman bien sain, qui portera en lui les signes spectaculaires du romanesque, un roman à la fois solide et pas cher, le prix Goncourt, par exemple, qu'on nous a présenté en 1955 comme le triomphe de la saine tradition. Stendhal, Balzac, Zola relaient ici Mozart et Rimbaud, contre les décadences de l'avant-garde. L'important, comme dans la page ménagère de nos journaux féminins, c'est d'avoir affaire à des objets littéraires dont on sache bien la forme, l'usage et le prix avant de les acheter, et que jamais rien en eux ne dépayse. Car il n'y a aucun danger à décréter étrange la poésie de Minou Drouet si on la reconnaît dès l'abord comme poésie. La littérature ne commence pourtant que devant l'innommable, face à la perception d'un ailleurs étranger au langage même qui le cherche. C'est ce doute créateur, c'est cette mort féconde que notre société condamne dans sa bonne littérature et qu'elle exorcise dans sa mauvaise. Vouloir à grands cris que le roman soit roman, la poésie poésie et le théâtre théâtre, cette tautologie stérile est de même sorte que les lois dénominatives qui régissent dans le code civil la propriété des biens. Tout ici concourt au grand œuvre bourgeois qui est de réduire enfin l'être à un avoir, l'objet à une chose. Reste après tout cela le cas de la petite fille elle-même, mais que la société ne se lamente pas hypocritement. C'est elle qui dévore Minou Drouet. C'est d'elle et d'elle seule que l'enfant est la victime. Victime propitiatoire sacrifiée pour que le monde soit clair, pour que la poésie, le génie et l'enfance, en un mot le désordre, soient apprivoisés à bon compte et que la vraie révolte, lorsqu'elle paraît, trouve déjà la place prise dans les journaux. Minou Drouet est l'enfant martyr de l'adulte en mal de luxe poétique. C'est la séquestrée ou la kidnappée d'un ordre conformiste qui réduit la liberté au prodige. Elle est la gosse que la mendiante pousse devant elle quand, par derrière, le grabat est plein de sous. Une petite larme pour Minou Drouet, un petit frisson pour la poésie, et nous voilà débarrassés de la littérature.
Quand j'entends parler de la semaine de la bonté, je trouve que c'est le plus triste aveu de la méchanceté humaine.
Qui consent à faire grève, oui,
qui consent à faire grève seulement un 52e de chaque année. Mais vous, que penseriez-vous si vous voyiez un menu d'un restaurant qui afficherait « Semaine sans chair humaine » Mais ça vous fixerait rudement sur les menus habituels.
Bien sûr. Et quand on te dit que tu es méchante, ça évoque toi. Quoi pour toi? On ne te l'a jamais dit?
Non, mais parce que j'étais petite, mais la campagne de presse qu'on a faite contre nous m'a prouvé ce qu'étaient les méchants. Parce que j'étais petite et pauvre, et bien chaque journaliste se faisait un devoir de donner à ses lecteurs tous les jours une tranche de Minou toute crue. Parce que moi, je trouve que la méchanceté, c'est la plus grave des maladies.
C'est une grave maladie. Qu'est-ce que c'est qu'une campagne de presse?
Ben, c'est parce qu'on disait avant que je n'étais qu'une petite idiote. Et que je pouvais pas écrire mes petites choses.
Qu'est-ce que c'est des petites choses?
Ben mes petits poèmes.
Et tu les écris depuis quel âge, tes petits poèmes?
Quand j'avais 6 ans.
Amour, mon cher amour, on s'aimera toujours. Voilà la belle chanson d'une fille et d'un garçon. Amour, mon cher amour, on s'aimera toujours. La terre a beau tourner, ça ne peut jamais se terminer. L'air était très doux. Dans la rue, un soir, ils se connaissaient pas du tout. Ils marchaient sans se voir au bord du trottoir. En faisant un faux pas, elle est tombée dans ses bras. qu'elle est jolie, leur histoire.
C'était Mythologie de Roland Barthes. Aujourd'hui, la littérature selon Minou Drouet, lue par Anne Kreis. Prise de son, montage, mixage, Marie-Dominique Bougot, Annick Brien, assistante Céline Terce, réalisation Jean Couturier.
Ça ne peut jamais se terminer. Tomber dans ses bras, elle leva les yeux, tendrement il la serra, respirant ses cheveux. Ils s'aimèrent si fort, c'était pour toujours, à mesure que passent les jours, leur amour grandit encore.
Vous écoutez France Culture.
Lève-toi, c'est décidé, laisse-moi te remplacer, je vais prendre ta douleur. Doucement, sans faire de bruit, comme on réveille la pluie, je vais prendre ta douleur, prendre ta douleur, je vais prendre ta douleur. Elle lutte, elle se débat, mais ne résistera pas, je vais bloquer l'ascenseur, je vais prendre ta douleur, saboter l'interrupteur, je vais prendre ta douleur. Je vais tout lui confisquer, ses fléchettes et son sifflet. Je vais lui donner la fessée. Je vais prendre ta douleur, la virée de la récré. Je vais prendre ta douleur. Mais c'est qui cette héritière qui se baigne, qui se taire dans le tiède de tes reins?
Un an après les violences du printemps 2024, dans quel état se trouve la Nouvelle-Calédonie ?
Nicolas Herbeau.
Alors que le ministre des Outre-mer a engagé cette semaine de nouvelles discussions sur l'avenir institutionnel du territoire français du Pacifique Sud, la situation économique et sociale reste très préoccupante. Politiquement, tout est également instable. La question de l'héritage colonial paraît incontournable, explique l'anthropologue Benoît Trépied dans son dernier essai. Il est notre invité.
Les matins du samedi, ce samedi à 7h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Le rap, c'est pas le monde des bisounours, tu vois, c'est un sport en vrai, le rap, faut s'entraîner.
J'ai toujours cru que rapper, c'était un exercice facile.
Tout le monde peut faire du rap.
Mais là où ça devient plus compliqué, c'est quand t'es animé d'une ambition, d'un horizon, celui d'être un rappeur d'exception.
C'est charmant.
Et j'en suis là. Mon blaze, c'est Bugs Bunny. Dans cette aventure, je suis pas seul. Avec Alain G et Baz Le Sel, on a fait une maquette et on l'a présentée à des artistes.
La méthode rap, volume 1 en podcast. Un docufiction de l'expérience à écouter sur franceculture.fr et l'appli Radio France.
France Culture vous propose de redécouvrir cette émission.
Bonjour le Book Club, bonjour Max Loeb. J'ai lu votre livre d'une traite. Ce n'était pas gagné d'avance.